magazine des Nations Unies.
Bon dimanche à tous, c'est l'heure de votre rendez-vous avec les Nations Unies. Voici le sommaire de cette émission. 3,5 milliards de dollars américains, c'est l'engagement global de la Banque mondiale pour 25 projets en RDC. Les médias se sont informés dessus lors d'une journée porte ouverte organisée à leur intention la semaine dernière au siège du bureau RDC de cette institution ici à Kinshasa. Ce sera l'actualité de la semaine. La RDC accueille sur son territoire plusieurs dizaines de milliers de réfugiés, dont plus de 50 000 centrafricains. Et le 20 juin, vous savez, la communauté internationale célèbre la journée mondiale des réfugiés. Pour en parler, une invitée dans ce magazine, Céline Schmitt, porte-parole de la représentation régionale du HCR en RDC. Enfin, un tour du côté de la CPI pour un éclairage sur l'affaire Bosco Ntaganda avec Paul Madidi, porte-parole de la Cour pénale internationale en RDC.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous. Je l'ai dit dans le sommaire, la Banque mondiale est engagée financièrement dans 25 projets du gouvernement congolais pour une enveloppe globale de 3,5 milliards de dollars américains. Une centaine de journalistes ont été conviés à s'imprégner de ces projets au cours d'une journée porte ouverte pour les médias le mercredi dernier au siège du bureau de cette institution à Kinshasa. Honoré Missinga Kalala était lui aussi de la partie.
Bonne gouvernance, agriculture, santé, éducation, route, transport, environnement, mines, énergie, autant de secteurs dans lesquels la Banque mondiale poursuit cette année son appui au gouvernement congolais. Son directeur des opérations en RDC, Eustache Wairo, a fait déployer toute la logistique nécessaire, mobiliser ses experts et ceux du gouvernement dans l'exécution des différents projets. Il était donc question de montrer ces projets, les expliquer et échanger avec les journalistes sur leur impact. À l'exemple du PARCE, projet d'appui au redressement du secteur de l'éducation.
Nous devons ramener un grand nombre d'enfants à l'école. Sur les 150 millions de dollars du don, 124 millions qui sont alloués pour les primaires. Réhabiliter les écoles, fournir les manuels scolaires que vous voyez derrière vous, renforcer les capacités dans les secteurs pour les enseignants. Et nous allouons les salaires des enseignants pour les écoles éligibles. Nous allouons les frais de fonctionnement aux écoles aussi, plus de 30 000 écoles. Il y a d'autres enseignants qui enseignent et qui n'ont jamais été payés, mais ils sont mécanisés, mais non budgétisés. Ce sont ces gens-là, par le gouvernement et dans les canaux de la Banque mondiale, que nous apportons ces soutiens-là aux écoles et aux enseignants.
Ou du projet Enfants guide de la rue, EDER.
Nous avons le mandat de faire la prise en charge des enfants en assistance et de faire la prévention pour que les enfants ne tombent pas dans la rue. Nous développons nos actions sur 12 communes. Dans 4 communes, nous faisons la prévention. Dans 8 autres communes, nous faisons l'assistance. Il s'agit d'identifier d'abord les enfants dans la rue, de les convaincre d'entrer dans un centre d'hébergement. Et là-bas, ils ont un choix, soit de faire l'éducation formelle, ou l'éducation non formelle, c'est-à-dire l'alphabétisation, le rattrapage scolaire, ou alors la formation professionnelle. Nous sommes arrivés pratiquement à près de 4500 enfants que nous avons pris en charge dans ce volet, sans compter ceux qui sont en dehors des centres et que nous amenons progressivement l'accompagnement psychosocial.
Au total, la Banque mondiale s'est engagée dans 25 projets, dont certains arrivent à terme en 2015 ou en 2016. Et le financement global s'est reparti comme suit. Le secteur agricole, 3%. Gouvernance et mines, 8%. Secteur privé, 9%. Secteurs sociaux, 19%. Et infrastructures, 61%.
Autre actualité de la semaine, le prix d'excellence 2014 décerné à 3 agences des Nations Unies pour les activités menées en RDC. Il s'agit du Programme Alimentaire Mondial, PAM, de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, et le Fonds International pour l'Agriculture, FIDA. La remise de ce prix a eu lieu le 6 juin dernier à Rome, en Italie. Les représentants de ces 3 agences en RDC ont fait la restitution de cette cérémonie au cours d'une conférence de presse commune. C'était le mercredi 18 juin à Kinshasa. Ndiaye Gueye de la FAO explique ici la portée symbolique de ce prix.
Il n'y a pas eu en tant que tel sur ce prix-là un accompagnement financier. Ce prix, il faut plutôt le comprendre et l'interpréter comme une reconnaissance du travail que nous faisons déjà en termes de collaboration, mais surtout plutôt comme une incitation à continuer à faire davantage. Et la reconnaissance, ce n'est pas aux trois représentants qui sont ici, c'est plus le travail formidable que tous nos collaborateurs sur le terrain sont en train de faire. Et c'est eux qui sont en réalité primés. C'est ça qu'il faut comprendre.
Les propos du représentant de la FAO ont été recueillis par Jean-Pierre Elali Coco.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Affaire Bosco Ntaganda. L'ancien seigneur de guerre doit maintenant se préparer à affronter les juges de la Cour pénale internationale. Il y a presque deux semaines, la chambre préliminaire 2 de la CPI a confirmé à l'unanimité les charges portées contre Bosco Ntaganda. Dans ce magazine, nous recevons Paul Madidi, porte-parole de la CPI, bureau RDC, pour en parler. Il s'entretient avec Honoré Missenga-Kalala.
Paul Madidi, bonjour.
Oui, bonjour.
La CPI vient de confirmer les charges portées contre Bosco Ntaganda. Que signifie pour commencer une audience de confirmation des charges?
L'audience de confirmation des charges est une étape dans la procédure devant la CPI qui n'est pas à confondre avec une audience de jugement. Ce n'est pas un procès, ce n'est pas non plus un mini-procès, mais c'est une étape au cours de laquelle le procureur doit présenter au juge des éléments de preuve suffisants pour les convaincre qu'il existe des motifs substantiels de croire que la personne a commis les crimes qui lui sont imputés. En l'occurrence, ici, dans l'affaire M. Ntaganda, les juges ont estimé donc que des preuves présentées par le procureur sont suffisantes pour que le procès se tienne. Voilà.
Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le nombre des charges retenues contre Bosco Ntaganda?
Alors, M. Bosco Ntaganda doit répondre de 18 chefs d'accusation de crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. C'est notamment, par exemple, en ce qui concerne des crimes de guerre, des attaques contre des populations civiles, des meurtres, des viols même, des pillages, des attaques contre des biens des personnes, alors que pour des crimes contre l'humanité, il a été suffisamment montré qu'il y aurait eu des attaques généralisées, systématisées contre des populations civiles et des populations non aimantes. Parce qu'en fait, il faut remettre l'affaire Bosco Ntaganda dans le contexte du conflit qui a éclaté en Ituri entre 2002 et 2003. Monsieur Bosco Ntaganda se trouvait du côté de Monsieur Doma Lubanga, qui est aimant. Donc, les crimes contre l'humanité ici, c'est principalement des attaques contre des populations non aimantes.
Donc il n'y a pas eu de charges retenues contre lui pendant la période où il était au CNDP?
Non, il s'agit exclusivement d'ailleurs que des crimes commis en Ituri entre 2002 et 2003. Je n'avais pas fini la liste des charges, etc. C'est aussi des viols, l'esclavage sexuel, etc. Donc tous ces faits sont autant crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il y en a 18 et donc il doit répondre de toutes ces charges-là.
Bosco Ntaganda peut-il interjeter appel à ce stade?
Non, en tout cas le texte ne le prévoit pas, mais par contre le statut de Rome garantit des droits à l'accusé. C'est par exemple d'être informé dans le plus court délai et de façon détaillée de la nature, de la cause, de la tenue des charges dans la langue qu'il comprend. Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, être jugé sans retard excessif. Le statut de Rome prévoit un certain nombre donc des droits pour l'accusé.
Paul Madidi, j'en viens un peu à la forme du communiqué. Le communiqué dit que la confirmation des charges retenues contre Bosco Ntaganda l'a été à l'unanimité. Pourquoi insister sur le terme unanimité?
En fait, on a vu par exemple dans le passé les charges présentées par le procureur qui n'ont été confirmées que partiellement. On a vu ça dans l'affaire Jean-Pierre Bemba, par exemple. Mais ici, toutes les charges telles que présentées par le procureur ont été confirmées en tout. Si on peut appeler ça le package présenté par le procureur, a été accepté, a été confirmé.
Alors, quelle est la suite après la confirmation des charges?
Maintenant, comme je l'ai dit, le procès va se tenir. L'affaire maintenant donc est renvoyée à l'étape du procès. Le procès peut se tenir maintenant. Parce qu'il est possible, après l'audience de confirmation des charges, ou plutôt la décision à l'issue de l'audience de confirmation des charges, soit que, par exemple, les juges ne confirment aucune charge. Donc, il n'y a pas de procès à ce moment-là. Ou bien qu'on demande au procureur d'apporter des éléments additionnels, des informations autres que celle qu'il a présentée. Donc voilà. Mais là, dans le cas ici de M. Bosco Ntaganda, tout a été confirmé et donc on va en procès. L'accusé doit maintenant, avec sa défense, se préparer au procès.
Il y a un délai pour le début du procès?
Non, d'abord il faut qu'il y ait une nomination des juges qui vont organiser ce procès-là. Le juge président de la Cour pénale internationale va, dans les jours, les semaines qui viennent, nommer une chambre de première instance constituée de 3 juges qui vont donc mener ce procès.
Paul Madidi, alors Bosco Ntaganda va comparaître à la CPI comme Congolais ou Rwandais?
Monsieur Bosco Ntaganda est un citoyen congolais. Depuis le début de l'affaire, dans le mandat d'arrêt publié depuis fort longtemps, il est citoyen congolais. Il est vrai qu'il parle le Kinyarwanda, il a, je crois, grandi là-bas, c'est la langue qu'il parle le mieux, mais c'est un citoyen congolais, il s'est toujours présenté en tant que tel, c'est donc un citoyen congolais.
Paul Madidi, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Une nouvelle radio communautaire a vu le jour, c'est la radio communautaire Amani qui veut dire paix en Swahili. Elle a été inaugurée le jeudi dernier à Rubaya, une localité du territoire de Masisi. Nous sommes donc dans la province du Nord Kivu. C'est un projet du CNUD en partenariat avec l'UNICEF et la FAO dans le cadre du soutien de la MONUSCO dans le programme gouvernemental de stabilisation. La mission de cette radio de proximité est de garantir l'accès à une bonne formation aux habitants de la zone, mais aussi de promouvoir le dialogue intercommunautaire pour consolider la paix. L'UNICEF relève des tendances positives dans le domaine de l'éducation pour tous en RDC. C'est en marge de la célébration de la journée de l'enfant africain le 16 juin que cette agence a fait ce constat en se basant sur le dernier rapport de l'État. Celui-ci met en exergue l'augmentation du budget de l'État alloué au secteur de l'éducation et la bancarisation des salaires des enseignants, pour ne citer que cela. Le thème de la journée de l'enfant africain cette année a été une éducation de qualité, gratuite, obligatoire et adaptée pour tous les enfants en Afrique. Autre journée célébrée cette semaine, c'est la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. C'était le 17 juin. Le thème, la terre appartient à l'avenir, faisant face aux défis du changement climatique. À cette occasion, la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, a réaffirmé qu'il est urgent de mettre en place des solutions de gestion durable des terres arides. Elle a aussi mis en exergue le programme de l'UNESCO dédié aux zones arides, un exemple d'initiative qui a permis d'accélérer la recherche scientifique sur ces écosystèmes, a-t-elle souligné. Vendredi 20 juin, comme chaque année, la communauté internationale a commémoré la journée mondiale des réfugiés. Dans cette émission, une invitée, Céline Schmitt, porte-parole du Haut Commissariat des réfugiés, représentation régionale RDC. Céline Schmitt s'entretient avec Nikon Ngaka. Elle dresse le tableau de la situation des réfugiés en République démocratique du Congo. Suivez.
Céline Schmitt, bonjour.
Bonjour.
Nous savons que vendredi 20 juin, la communauté internationale a célébré la journée mondiale des réfugiés. Alors brièvement, quel tableau dressez-vous de la situation des réfugiés ici en RDC?
Donc actuellement en RDC, on compte encore un peu plus de 110 000 réfugiés qui vivent ici en RDC. Ils sont majoritairement de la République centrafricaine, mais également du Rwanda et quelques-uns du Burundi et d'autres nationalités. Nous travaillons avec la Commission nationale pour les réfugiés pour assurer la protection de ces personnes, mais également pour trouver des solutions, ce qu'on appelle des solutions durables, c'est-à-dire des solutions pour l'avenir de ces personnes, pour qu'elles puissent soit rentrer chez elles, soit trouver d'autres solutions, comme par exemple l'intégration locale, c'est-à-dire s'intégrer ici en RDC.
Et en 2013, le pays a accueilli 50 000 réfugiés originaires de la Centrafrique en raison de la dégradation de la situation dans ce pays. Alors le HCR a entrepris, nous savons, le transfert de près de 50% d'entre eux dans des camps. Comment ce transfert s'est-il déroulé et quels sont les camps choisis ?
Effectivement, nous accueillons toujours des réfugiés qui arrivent de la République centrafricaine. Ils sont maintenant plus de 50 000. La moitié ont été transférés dans des camps. Donc nous avons ouvert avec les autorités 4 camps de réfugiés, 3 dans la province de l'Équateur et 1 en province orientale. Donc les 3 camps dans la province de l'Équateur se trouvent près de Zongo, un autre près de Libengue et le troisième près de Badolité. Et celui en province orientale se trouve près de Ango. Donc ce que nous faisons, c'est lorsque les réfugiés traversent la frontière, nous les accueillons avec nos partenaires, avec la Commission nationale pour les réfugiés, qui fait un court entretien. Et ensuite, ceux qui veulent être transférés vers les camps de réfugiés, nous assurons leur transfert par des camions pour qu'ils puissent aller dans les camps de réfugiés où les services de base sont assurés, c'est-à-dire ils reçoivent un abri, ils reçoivent une assistance d'urgence, il y a des vivres qui sont donnés, il y a des soins de santé qui sont apportés et également une éducation qui est assurée pour les enfants.
Autrement dit, le HCR est bien organisé sur place pour rendre la vie possible dans ces différents camps.
C'est ce que nous devons faire. Nous devons nous assurer que les réfugiés puissent continuer leur vie, qu'ils puissent être protégés. Cette protection est assurée par le gouvernement congolais, mais également qu'ils puissent avoir accès aux services de base, c'est-à-dire avoir un toit, avoir de la nourriture, pouvoir accéder aux soins de santé, pouvoir envoyer les enfants à l'école. Donc c'est ces différents services que nous mettons en œuvre avec nos partenaires sur place, c'est-à-dire les ONG avec lesquelles nous travaillons, et bien sûr grâce à l'aide de nos donateurs qui nous financent et qui nous permettent de mettre en œuvre ces programmes.
Mais est-ce que vous vérifiez le statut de chaque réfugié? Parce que bon, certains peuvent venir, on ne sait jamais, avec des armes et se prétendre réfugiés. Est-ce que vous vérifiez ça en amont?
Nous travaillons avec les autorités congolaises pour assurer ce qu'on appelle le caractère civil des camps de réfugiés. Les camps de réfugiés n'hébergent que des civils. Si des personnes traversent avec des armes, les autorités congolaises s'en occupent. Les désarment et s'en occupent à part.
Ça arrive.
Ça peut arriver dans des situations de conflit et c'est pour ça que nous avons des accords avec les autorités qui s'occupent de désarmer les personnes qui traversent avec des armes et ces personnes-là sont séparées. Donc c'est les autorités qui s'en occupent, ces personnes-là ne sont pas transférées dans les camps de réfugiés. Dans les camps de réfugiés, il s'agit de civils.
Alors nous savons que dans l'est de la RDC, environ 450 000 Congolais seraient toujours en exil dans les pays limitrophes comme le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et la Tanzanie. Que prévoit le HCR pour faciliter le rapatriement volontaire de ses compatriotes?
Nous avons tenu un certain nombre de réunions dernièrement pour discuter du rapatriement volontaire, notamment des réfugiés congolais qui se trouvent en Ouganda. Les progrès qui ont été faits dans l'est du pays, vers la paix, vers la stabilité, sont encourageants et les réfugiés qui se trouvent en Ouganda ont commencé à rentrer de façon spontanée. Nous, nous sommes réunis avec l'Ouganda, le Congo et bien sûr nous, le HCR, pour voir comment faciliter le retour des Congolais qui veulent rentrer. Nous assurer également que les conditions sont réunies pour leur retour, que la paix est bien revenue, que les personnes peuvent rentrer en toute sécurité. Ce que nous avons décidé pour l'instant est notamment pour éviter de nouvelles tragédies comme celle qui a eu lieu sur le lac Édouard dernièrement où des réfugiés ont pris un bateau qui a fait naufrage et beaucoup de réfugiés sont morts. Donc pour éviter ce genre de tragédie, nous sommes mis d'accord avec les autorités des deux pays que nous allons faciliter le retour des réfugiés qui veulent rentrer chez eux. C'est-à-dire nous allons mettre en place des navettes pour leur permettre de rentrer chez eux. Donc nous sommes en train de travailler pour mettre cela en place. Le retour n'a pas commencé encore, mais nous espérons que cela va pouvoir commencer dans les prochaines semaines.
On dénombre plus de 2 millions de déplacés internes, hein, Céline Smith. Selon les estimations fin 2013, là aussi le HCR a eu un rôle à jouer. Alors pouvez-vous nous en parler de manière brève ?
Effectivement, il y a encore plus de 2 millions de personnes déplacées internes dans le pays, notamment à l'Est, mais également au Katanga. Le HCR s'occupe tout d'abord de la gestion des camps de déplacés, notamment au Nord Kivu, et également de la protection de ces déplacés, c'est-à-dire assurer que ces déplacés aient accès à leurs droits, que leurs droits soient respectés. Voilà notre mandat et nous travaillons avec d'autres agences qui vont s'occuper de l'assistance dans d'autres domaines, que ce soit l'eau, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation. Là aussi, la stabilité qui est revenue dans certaines zones de l'Est ont encouragé certaines personnes à vouloir rentrer. Et là aussi, nous travaillons avec les partenaires, les autres agences des Nations Unies et les autorités pour voir comment aider les personnes à rentrer et dans quelle zone ce retour est possible.
Alors, si on doit parler maintenant des priorités dans les prévisions du HCR au deuxième semestre 2014, ce serait bien d'éclairer nos auditeurs d'abord en ce qui concerne les réfugiés centrafricains.
Tout d'abord, en ce qui concerne les réfugiés centrafricains, notre priorité est toujours de leur apporter une protection et une assistance. Des réfugiés continuent à arriver en RDC. Nous sommes toujours dans une situation d'urgence. Notre objectif est de continuer à assister les réfugiés qui arrivent, à pouvoir répondre à leurs besoins prioritaires, à pouvoir leur donner un toit, à pouvoir les protéger. Ensuite, en ce qui concerne le retour des réfugiés congolais dans les pays voisins, une autre priorité que nous avons, c'est clôturer le rapatriement des réfugiés de la RDC qui sont en République du Congo. Nous avons commencé cette opération depuis quelques années maintenant. La majorité des réfugiés sont déjà rentrés et nous avions annoncé que le rapatriement prendrait fin au cours de l'été. Donc notre objectif, c'est de tourner la page, clôturer ce chapitre et continuer bien sûr à aider à la réintégration des réfugiés qui rentrent dans la province de l'Équateur. Et troisièmement, nous allons également avoir une réunion tripartite avec l'Angola, parce qu'il y a toujours d'anciens réfugiés angolais qui vivent en RDC, qui veulent rentrer chez eux. Donc nous allons avoir prochainement une rencontre entre l'Angola et la RDC et le HCR pour discuter des modalités du retour des anciens réfugiés angolais qui veulent rentrer chez eux.
Merci d'avoir été des nôtres, Céline, et à la prochaine.
Merci à vous.
Et puis nous allons encore une fois, comme nouvelle de province, parler de la Journée mondiale des réfugiés en nous rendant cette fois-ci dans la province de l'Équateur, précisément à Zongo, où Jean-Pierre Elali Coco a accompagné jeudi et vendredi dernier le représentant régional du HCR en RDC. En marge de cette journée, Stefano Severe s'est rendu au camp Molé où vivent une partie des réfugiés centrafricains. Les détails avec notre envoyé spécial.
Aussitôt arrivé à Zongo, le représentant régional du HCR et sa délégation se sont rendus au camp des réfugiés centrafricains de Molé, à 35 km de la ville de Zongo. Sur place, M. Stefano Severe a été accueilli par les comités de réfugiés, les responsables locaux de la Commission nationale pour les réfugiés, au rythme des chansons et de la fanfare. Ensuite, le représentant régional a inauguré une maternité de quelques lits, ainsi qu'un cybercafé qui sera équipé de 25 ordinateurs. Ces deux ouvrages ont été construits avec un financement du HCR au bénéfice entendu des réfugiés centrafricains. M. Severe a rappelé les efforts déployés par son agence et d'autres partenaires pour venir en aide aux réfugiés. La cérémonie s'est poursuivie avec un récital des fenêtres des enfants réfugiés. Tous ont dénoncé la guerre et réclamé le retour de la paix en Centrafrique. Notons que les camps de Molé comptent actuellement 12 000 réfugiés centrafricains. De Zongo, Jean-Pierre Elali Ikoko, Radio Kapi.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
La question aux Nations Unies de cette semaine porte sur le bilan contradictoire des morts du côté de l'armée congolaise à l'issue des combats à la frontière entre le Rwanda et la RDC il y a environ 2 semaines. Une question posée à Kinshasa au colonel Félix Pass, porte-parole militaire de la MONUSCO.
Joseph Kazadi, Direct Télévision. Ma question s'adresse au colonel Félix Pass. Colonel, d'une part, le porte-parole des FRDC, le colonel Olivier Amouli, avait, à l'issue des combats qui avaient opposé l'armée congolaise à celle du Rwanda, reconnu la mort d'un élément des forces armées congolaises. D'autre part, L'armée rwandaise avait présenté devant la presse locale et internationale 5 corps sans vie des forces armées congolaises qu'elle affirmait avoir tués à l'issue de ces combats. Comment vous réagissez là-dessus?
Mais je réagis comme vous, parce que vous êtes tout à fait dubitatif face à deux déclarations du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Et à ce titre, nous vous avons dit qu'il y a une structure spécialisée qui a été chargée de faire la lumière sur ça et qu'à l'issue de ces investigations, un rapport vous sera communiqué. Cette structure, c'est le mécanisme conjoint de vérification. Je pense qu'avec un peu de patience, nous pourrons avoir avec précision les tenants et les aboutissants de cet incident.
Magazine des Nations Unies. Portrait d'usine.
Bonjour chers auditeurs, c'est Sylvie Olela-Odimba. Je suis spécialiste en relèvement communautaire au PNUD, donc l'Agence des Nations Unies pour le Développement. Ça va bientôt faire 2 ans que j'y travaille. Pour ce qui est de ma formation, je suis licenciée en droit de l'Université catholique de Louvain en Belgique. Et ça va faire bientôt 6 ans que je vis et travaille ici à Kinshasa. J'ai travaillé d'abord pendant 4 ans dans un cabinet d'avocats. J'étais collaboratrice au sein du département de propriété industrielle. Et donc, comme je vous l'ai dit, depuis maintenant 2 ans, je travaille au PNUD. L'essentiel de mes fonctions, c'est de gérer et de superviser la mise en place de nos projets. Moi, je travaille essentiellement sur les projets qui sont exécutés à l'est du pays et qui visent la réintégration socio-économique des femmes et des vulnérables. Pour ce qui est de ma vie personnelle, je suis mariée également depuis bientôt 4 ans. Je n'ai pas encore d'enfant. Et pour un peu me décrire, je suis quelqu'un de très sociable qui va profiter de sa famille, de ses amis, de la vie à l'église. Je suis très engagée dans mon église. J'aime beaucoup le sport. J'essaye de me discipliner pour faire du sport 3 fois par semaine. Et j'aime la lecture. Donc là, je viens de finir une trilogie, la saga Cortez de Catherine Pancol. C'est une histoire assez sympathique sur deux sœurs et les rapports entre sœurs, les jalousies, les rivalités. C'était assez intéressant, je vous le recommande. Ah, pour la musique, mais je suis quand même très fan de la musique française. Donc pour citer, c'est une actrice, une chanteuse comme Axel Red, une chanteuse belge, celle qui est très célèbre pour son titre Sensualité. Donc ça, c'est quand même ce qui est dans ma voiture, c'est Axel Red, c'est la musique gospel également, Kirk Franklin, mais les artistes congolais aussi, hein, Gaël, etc. Et pour ce qui est de mes projets ou de comment je me visualise dans les prochaines années, mais c'est déjà évolué au niveau familial, d'avoir mes enfants et également de pouvoir évoluer dans d'autres pays, toujours au sein du PNUD ou des agences des Nations Unies. Je vous remercie.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Notez dans vos agendas que du 23 au 24 juin, la section Jean du PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, organise une session de formation sur la communauté et des pratiques en faveur des agents et cadres des Nations Unies, acteurs des institutions et de la société civile, lieu de rencontre, Villa 89 du PNUD, dans la commune de la Gombe, à Kinshasa. Et dans le calendrier des Nations Unies, retenez aussi cette date avec 2 événements, le 26 juin, la journée internationale contre l'abus et le trafic des drogues, et la journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nicole Ngaka était à la supervision de ce magazine. Jean-Pierre Elali Coco à la coordination. Et Honoré Missenga au reportage. Paul Badianyama à la régie. Et moi, Mila Kimouye à la présentation de cette émission. Une émission à réécouter sur notre site internet radiocapi.net. Nous attendons vos suggestions, vos questions ou vos remarques comme commentaires sur le site internet. Vous pouvez aussi nous joindre par notre adresse mail maguen@radiocapi.net ou notre numéro de téléphone, c'est le 082 30 76 630 082 30 76 630. Je vous souhaite une très bonne journée dominicale à tous. Au revoir.